Conférence débat jeudi 6 novembre à Arras, rendez-vous à 19h à la Maison des Sociétés. Attaque Artois invite Jean Gadret, professeur émérite d'économie à Lille 1, membre du conseil scientifique d'Attaque, pour cette conférence donc sur le thème « Au-delà de la croissance, les voies d'une autre prospérité ». Jean Gadret avec nous par téléphone, bonjour. Alors on entend ce mot quasiment tous les jours dans les bouches de nos représentants, la croissance, c'est ce qui a l'air de fonder la réussite ou l'échec des gouvernements. C'est quoi finalement la croissance, Jean Gadret ?
Alors techniquement, c'est assez simple, hein. La croissance d'une grandeur technique qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB, qui est tout simplement la somme des valeurs ajoutées produites en un an dans un pays. Et la croissance, c'est la variation de cette grandeur, déduction faite de l'inflation. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et le problème est qu'en tant qu'outil technique, cet indicateur est très utile à des analyses économiques, mais qu'on lui fait dire des choses qu'il ne peut pas dire, qu'on le sacralise, et qu'on finit par confondre les moyens et les fins. A priori, l'économie devrait être mise au service du bien-être, de la société, du développement humain, et dans les discours politiques ou des économistes, souvent, la croissance apparaît comme la finalité suprême, celle qu'il faut atteindre, et sans laquelle aucun progrès social, aucun développement humain n'est possible. Il y a donc là, la nature du problème se situe là, non pas dans l'existence d'un indicateur de croissance qui a ses fonctions, mais dans le fait qu'on soit passé à un culte de la croissance, culte que partagent, disons, les dominants ou l'oligarchie actuellement au pouvoir. Cela dit, cette croyance générale partagée à droite, à gauche, enfin disons par presque toutes les élites, comme on dit, commence à en prendre un sérieux coup, et au cours des dernières années ça s'est renforcé, au point que d'ailleurs même une partie des économistes qui participaient de ce culte de la croissance se sont mis à émettre des doutes. On est donc dans une situation où la croissance est désormais en question. Comme le montre d'ailleurs fort bien le film documentaire qui a été projeté hier soir sur Arte de Marie-Monique Robin, qui s'appelle « Sacrée croissance » et que j'invite les gens à voir ou à revoir, parce que c'est une assez belle démonstration à la fois de ce culte, mais aussi et surtout du fait qu'il y a des alternatives.
Alors, la croissance est quand même présentée comme la condition sine qua non de l'emploi, de la prospérité.
Voilà, alors ce que je compte montrer au cours de cette conférence à Arras, jeudi, c'est que d'une part, la croissance que nous avons connue au cours des deux ou trois dernières décennies n'a pas apporté du tout la prospérité, elle s'est même accompagnée d'une montée du chômage. Et puis elle s'est surtout accompagnée d'une forte dégradation de l'environnement, d'une crise écologique montante, de réchauffement climatique, etc. Donc finalement, ça n'est pas la solution, c'est peut-être plutôt le problème. Et que d'autre part, on peut viser un autre modèle de développement, une société post-croissance, débarrassée de ce culte, où les gens vivent bien dans un environnement préservé. Et vous avez raison de dire que la question qui est le plus souvent posée, c'est celle de l'emploi. Au fond, est-ce que la fin de la croissance va signifier la montée du chômage au-delà de ces niveaux actuels qui sont déjà insupportables ? Or, il y a des réponses très simples, et d'ailleurs, les expériences, les initiatives qui sont mises en avant dans le film de Marie-Monique Robin sont très probantes, même si pour l'instant elles restent des expériences locales, circonscrites. Au fond, l'idée d'un modèle post-croissance, c'est que il faudrait viser non pas toujours plus de quantité produite et consommée, ce qui nous mène à la crise écologique, mais aussi à la mauvaise santé sociale, mais toujours mieux. améliorer la croissance, non pas des quantités, mais si je puis dire, des qualités et de la durabilité de ce que l'on produit et de ce que l'on consomme. Or, ce serait bon pour l'emploi. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à comprendre, et le mieux peut-être, c'est que je prenne un exemple. Voilà, si l'on remplaçait progressivement en France, en Europe et dans le monde, l'agriculture actuelle, conventionnelle, industrielle, chimique, qui produit des dommages collatéraux considérables sur l'environnement, sur la santé, sur la qualité de l'alimentation et même sur la santé des agriculteurs, si on la remplaçait progressivement par une agriculture qu'on appelle biologique ou agroécologie, respectueuse de l'environnement, produisant des quantités de haute qualité, produisant des fruits, des légumes, des céréales et bien d'autres choses dans le respect de l'environnement, alors il faudrait, pour produire les mêmes quantités, c'est-à-dire sans croissance, environ 30% d'emplois en plus. On peut donc créer des emplois en grand nombre sans viser le toujours plus de quantité, mais en s'intéressant au toujours mieux, à la qualité sociale et environnementale de ce que l'on produit. Or, cet exemple de l'agriculture peut être étendu à beaucoup d'autres secteurs d'activité humaine, les énergies renouvelables, la réhabilitation thermique des logements anciens. La liste est longue des secteurs où la montée en qualité et en durabilité de la production serait créatrice d'emplois sans croissance. J'ai même proposé un scénario qui montre qu'en 20 ans, on pourrait créer entre 3 et 4 millions d'emplois sans croissance des quantités, en améliorant la qualité et la soutenabilité de ce que l'on produit.
Ce que ça pose comme question, finalement, c'est celle des indicateurs de richesse, ne plus se baser sur le PIB, un produit intérieur brut, mais sur d'autres critères. Et lesquels, je sais qu'il y a cette idée de BIB, bonheur intérieur brut, est-ce qu'il y a des travaux sur ces critères?
Oui, il est vrai que si on veut accompagner une transition, comme on dit, vers une société post-croissance, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'indicateur économique qui nous donne la somme des valeurs ajoutées produites, le produit intérieur brut, il restera utile, mais ce n'est pas lui qui doit constituer le cap, qui doit nous indiquer la direction à suivre. Et en effet, d'autres indicateurs existent. Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de bonheur, mais en tout cas, il y a deux grandes familles d'indicateurs qui nous donnent de bons caps. Les premiers, ce sont des indicateurs de santé sociale, à savoir comment évolue la pauvreté, les inégalités, l'exclusion, l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Et puis, la deuxième famille, ce sont des indicateurs de bonne santé écologique ou environnementale, qui nous disent est-ce que notre mode de vie nous permet de rester à l'intérieur des limites de ce que la nature peut nous fournir. Or, nous avons dépassé dans beaucoup de domaines les limites de ce que la nature peut nous fournir. Et en utilisant de tels indicateurs, on peut montrer, par exemple, si je prends le cas extrême des États-Unis, que ce pays qui nous est montré aujourd'hui comme connaissant une belle croissance du produit intérieur brut, qui nous était montré hier comme étant un modèle de croissance, que ce pays bat parmi l'ensemble des pays développés, des grands pays développés, tous les records en matière de mauvaise santé sociale et de mauvaise santé écologique, que l'on prenne les critères de la pauvreté, des inégalités, de la santé humaine, de la prévalence de l'obésité, de la proportion de crimes et de délits, de personnes emprisonnées, etc. Ce pays bat de très mauvais records dans l'ensemble des pays développés. Et sur le plan écologique, c'est celui qui a le plus haut niveau d'émissions de gaz à effet de serre par habitant dans l'ensemble des pays riches et la plus forte empreinte écologique, comme on dit, par habitant. Voilà donc un bon exemple de divergence entre l'indicateur croissance du produit intérieur brut qui nous dit « Oh, ben, les États-Unis, c'est quand même formidable !» et ce que donnent des indicateurs de santé sociale ou de santé environnementale Et d'ailleurs, l'échec cuisant que vient de subir Barack Obama aux États-Unis, alors même que la croissance économique américaine semble très bonne, est bien lié au fait que, en tout cas ceux qui votent, qui sont quand même une toute petite minorité aux États-Unis, considèrent que la situation des individus, la situation de la société s'est fortement dégradée, alors que les indicateurs économiques sont au beau fixe.
J'ai appris plein de choses pendant la crise financière. J'en connais maintenant sûrement plus que ma banquière, qui se la jouait initiée, bonne conseillère. Mais elle ne fait plus la fière, la boursicoteuse d'hier, quand elle voulait me vendre ses six caves. Le placement pas grave, l'investissement du brave, aujourd'hui on l'appelle Madame la grosse cave. Juste bonne à faire descendre le cours de la betterave. Allez, tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer.
Jean Gadret, autre lutte contre une autre idée reçue. Dans le Monde diplomatique du mois d'octobre, vous signez un papier intitulé « Faut-il vraiment payer toute la dette ?» Donc ça fait suite au travail des CAC, ces collectifs pour un audit citoyen de la dette. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail ?
Oui, alors en résumé, ces collectifs qui se sont créés un peu partout en France à partir de 2011 ont bien travaillé, ont beaucoup travaillé, et l'article que j'ai signé dans Le Monde diplomatique fait un peu un résumé de leurs apports et des évaluations que cela a permis. Un certain nombre d'économistes membres de ces collectifs ont repris et ont synthétisé le travail. Et au fond, le résultat principal de leur analyse repose sur une question. Quelle est, dans l'ensemble de la dette publique de la France aujourd'hui, qui représente quand même plus de 90% du produit intérieur brut, c'est-à-dire un niveau assez élevé, quelle est la part dont on peut dire qu'il s'agit de dettes contractées dans l'intérêt général, parce que certaines dettes sont parfaitement légitimes quand il s'agit de préparer l'avenir, d'investir dans un avenir meilleur, et quelle est la part qui a été contractée au bénéfice de minorités privilégiées et que l'on peut considérer comme illégitime. Et il s'agissait d'évaluer cela. Alors, aujourd'hui, on est confronté à un discours dominant qui consiste à dire nous sommes endettés en France ou dans d'autres pays parce que l'État a trop dépensé. Et donc, c'est un État obèse. À droite comme à gauche, c'est le discours dominant. Il faut donc réduire les dépenses publiques très fortement, et c'est à l'origine des politiques actuelles d'austérité. Or, d'abord, les faits montrent exactement l'inverse, c'est-à-dire que la dette publique est constituée à 80% de la dette de l'État, l'État central, et puis pour le reste, ce sont les dettes de la sécurité sociale et des collectivités locales. Donc, concentrons-nous sur l'État, la dette de l'État. La dette de l'État, les dépenses de l'État, en réalité, n'ont pas augmenté au cours des 30 dernières années, en proportion du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale annuelle, ces dépenses ont nettement diminué. Elles ont diminué de 2% du produit intérieur brut en 30 ans. Et c'est encore bien pire pour les recettes. L'État s'est délibérément privé de recettes. Le poids des recettes de l'État dans le produit intérieur brut a diminué, c'est énorme, de 5% du produit intérieur brut en 30 ans. Un produit intérieur brut qui est de l'ordre de 2000 milliards de dollars, 5%, ça fait 100 milliards d'euros, ça fait 100 milliards d'euros de manque à gagner par an du fait de décisions publiques qui s'appellent allègement de la fiscalité des ménages aisés et des grandes entreprises, boucliers fiscaux en toutes sortes, cadeaux fiscaux, niches en tout genre, sans parler des paradis fiscaux. Voilà, on est donc dans une situation où la réalité était à l'opposé du discours dominant d'un État qui aurait dépensé de plus en plus et qui nous aurait endettés. Et ce qu'ont fait mes amis des collectifs pour l'audit citoyen de la dette, c'est de tenter de faire la part des choses et de se dire, mais quel serait aujourd'hui le poids de la dette si cette dette avait été contractée au nom de l'intérêt général? Et ils utilisent pour cela deux volets de l'analyse. Ils disent, d'un côté, si l'État ne s'était pas privé aussi fortement de ressources, en particulier à partir de 1997, donc s'il avait maintenu la part de ses ressources dans le PIB au niveau de 1997, on en serait aujourd'hui avec une dette inférieure de 22% du produit intérieur brut à ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis leur deuxième raisonnement, je suis un peu long mais c'est nécessairement un peu technique, ça a été de dire à certaines périodes de l'histoire récente, en particulier dans les années 90, l'État a emprunté auprès des marchés financiers à des taux excessifs. Au fond, il a engraissé les prêteurs, et les prêteurs, ce sont les plus riches du monde. Et s'il avait pu emprunter à un taux modeste de 2%, y compris en empruntant auprès des ménages français, alors la dette actuelle serait inférieure d'environ 25% de produit intérieur brut à ce qu'elle est. Au total, et je conclue, aujourd'hui, au lieu d'avoir une dette publique d'environ d'un peu plus de 90% du produit intérieur brut, nous aurions une dette publique très raisonnable et très modeste qui ne serait qu'à 43% du produit intérieur brut français. Eh bien, disent-ils, ça serait une dette légitime. Le reste est illégitime et donc il faut envisager des mesures de justice sociale, de fiscalité juste, de lutte contre les paradis fiscaux, d'obligation de pouvoir emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne à des taux très faibles, afin de retrouver des niveaux de dette parfaitement supportables et parfaitement légitimes.
Le libéral appelle au secours et nous fait la morale, c'est le paradis fiscal, allez tous vous faire réguler. Vous nous faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. Allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer.
Jean Gadret, dernière question. On en a parlé, on a pu vous voir dans ce documentaire, hein, sur le thème de la croissance sur la chaîne Arte, une chaîne qui a aussi diffusé plusieurs documentaires sur le thème du capitalisme, de nombreux livres, des bandes dessinées, des rencontres. On a parlé aussi des collectifs qui n'hésitent pas à aborder ces questions économiques. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à nouveau à l'économie ?
Alors, je dirais que la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis 2007-2008 a des effets terribles sur les gens, sur le chômage, chez nous, dans le monde. Et donc c'est une crise extrêmement grave et qui n'est pas terminée. Mais elle a au moins ce mérite d'avoir plutôt favorisé le développement du débat public et citoyen sur les grands enjeux de société, qu'il s'agisse d'enjeux écologiques, des enjeux de la dette ou des enjeux plus généralement économiques. Moi, je plaide depuis très très longtemps pour que l'économie redevienne une affaire citoyenne, pour qu'elle ne s'élabore pas dans des cercles d'élite de la pensée unique qui nous disent, voilà, la science économique nous dit que nous sommes trop endettés, qu'il faut des politiques d'austérité et bien d'autres recommandations dans ce type. On s'aperçoit que les citoyens sont parfaitement capables de comprendre l'essentiel des enjeux économiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça reviendrait à retrouver ce que disait Keynes en son temps. Les économistes, disait-il, sont présentement au volant de la société, il serait temps de les mettre sur la banquette arrière. En ce qui me concerne, je ne propose pas forcément de les mettre dans le coffre, parce que certains d'entre eux sont utiles comme experts, mais il faut qu'ils restent un dans une position modeste dans les débats publics et dans les recommandations politiques.
Jean Gadret, professeur émérite d'économie à Lille 1, membre du conseil scientifique d'attaque, interviewé par téléphone hier matin. Il sera ce soir l'intervenant de cette conférence débat organisée par Attaque Artois à Arras. Le rendez-vous, c'est à 19h à la Maison des Sociétés, au 16 rue Aristide Briand. Le thème, je vous le rappelle, au-delà de la croissance, les voies d'une autre prospérité.
Depuis plus de 125 ans, nous invitons les gens à se rassembler autour de moments de bonheur, de joie et de partage. Pour nous, chez Coca-Cola, rassembler, c'est aussi être attentif au bien-être de chacun, à l'écoute de la société et de ses enjeux.
Toujours pas de pub sur Radio PFM, je vous rassure, c'était l'intro de cette chanson « La croissance et l'abondance » par ce groupe qui s'appelle « Les Frottis de l'espace ».